Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com info@commercialeglisem.com
Je sais que c'est pas nécessairement facile. Il y a probablement des personnes en ce moment qui ont peut-être perdu leur emploi, qui ont peut-être dû techniquement aller pointer au chômage avec les presque 1 million de personnes qui y sont rendues. C'est vraiment catastrophique de voir cela. On prie pour vous, on est avec vous. Je prie que le Seigneur puisse vraiment vous aider à trouver les ressources que vous avez besoin pour pouvoir, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de votre employeur, peu importe, que vous puissiez être pris en charge d'une façon quelconque pour que vous puissiez avoir ce qu'il faut pour voir à vos besoins essentiels. Et ceci étant dit, c'est un privilège qu'on puisse vous avoir aujourd'hui en direct avec nous, que vous puissiez être présent. Puis aussi, c'est le privilège que j'ai de pouvoir vous parler d'ici à l'Église aujourd'hui. Juste vous donner quelques informations, faire quelques annonces avant le message. Juste comment vous pouvez aussi donner en ligne, continuer à soutenir pour qu'on puisse le faire à chaque dimanche, de continuer l'œuvre qu'on est en train de faire là. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans la semaine pour améliorer l'expérience qu'on vous apporte. Vous pouvez offrir vos dons, vos dîmes, vos offrandes en ligne, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller sur notre site internet directement et vous allez voir cette image-là, comment donner en ligne, où vous pouvez, il y a tous les détails qui sont juste en dessous pour l'adresse courriel, toutes les informations. Je vous dis, c'est très sécuritaire, faites-vous-en pas avec ça, c'est comme un virement de votre, comme si vous payez, exemple, au Hydro-Québec, faux fournisseur quelconque. Vous pouvez le faire de la même façon aussi dans votre banque. Alors, vous pouvez vous rendre drette là, comment on peut faire un don et donner la dîme, vous pouvez vous rendre là, c'est sécuritaire. Et aussi, lorsque vous le faites de cette façon-là, vous allez pouvoir aussi être attribué votre reçu habituel ou votre numéro habituel pour les reçus d'impôts de fin d'année. Donc, vous allez pouvoir obtenir à ce moment-là le même bénéfice que vous obtenez ici à l'Église à chaque dimanche. J'aimerais juste qu'on puisse prier pour que le Seigneur puisse continuer à faire son œuvre. Seigneur, je te prie pour la situation dans laquelle on est. Je te prie pour les finances de l'Église, mais en même temps pour les finances de chacun. Seigneur, pour ceux qui peuvent supporter financièrement l'Église et qui continuent à le faire, merci pour leur fidélité. Pour ceux qui sont dans une situation où c'est difficile, je prie, Seigneur, que tu puisses venir et intervenir dans leur situation, qu'ils puissent aussi avoir la joie de donner, de te faire confiance et de partager, Seigneur, cette fois-là, en démontrant qu'ils ont confiance en toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses utiliser ces ressources, qu'on puisse avoir un impact encore plus grand sur notre communauté, sur la région dans laquelle on est, avec l'Évangile, au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous n'avez peut-être pas encore fait de don en ligne, vous pouvez le faire à tout moment, jour, nuit, peu importe, vous pouvez aller sur le site et c'est toujours en fonction pour pouvoir le faire. Si vous avez des questions, il y a le courriel qui est là et on va vous répondre pour vous donner tous les détails pour vous faire la démarche. Si c'est difficile pour vous, parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous ont envoyé des messages, que parfois c'est difficile par Facebook, soit de nous trouver, soit de garder le signal, parfois c'est pas évident, vous pouvez le faire d'une autre façon aussi qui peut être facile pour vous, c'est par YouTube. Et vous avez notre chaîne YouTube, vous avez juste à vous rendre sur YouTube, taper, vous voyez, Église espace M-Saint-Jérôme-Québec, vous allez trouver notre page YouTube et vous abonner. Vous avez juste à cliquer dans le haut à droite, abonner. Et lorsque vous êtes abonné, ben à chaque fois qu'on va en direct, vous allez avoir notification, vous allez avoir l'information comme quoi qu'on est en direct. Donc, ça va être une façon qui est plus facile si vous n'avez pas Facebook ou si d'une façon quelconque, vous n'avez pas accès toujours à Facebook ou c'est difficile. Je sais que parfois, ça l'est. Vous pouvez vous rendre sur YouTube ou directement sur notre site Internet. La même affaire. Sur notre site Internet, vous allez avoir la page où ce que les dons. Vous avez la même chose. Juste dans le haut, c'est écrit ce que les réunions seront diffusées. C'est diffusé exactement à cet endroit-là également. Donc, vous pouvez vous rendre à ces deux endroits-là, ces deux alternatives-là pour en place de Facebook. Aussi, s'il y en a qui aiment ça, suivent les messages, toutes les notes des prédications sont sur YouVersion, c'est-à-dire le logiciel, l'application Bible YouVersion. Il l'a aussi en ligne par ordinateur sur youversion.com. Un petit peu plus tard aujourd'hui, il va avoir un petit vidéo qui va être mis sur notre page Facebook qui explique comment installer et vous rendre aux événements pour avoir les notes. Et vous avez toutes les notes que vous avez soit en PowerPoint d'habitude, tout ce qui est prédication, tout ce que vous voyez sur les écrans, vous pouvez les obtenir chez vous. Et vous pouvez même les enregistrer, les garder avec vous. Donc, ce qui fait que vous pouvez retourner durant la semaine, réécouter le message et regarder les notes encore une fois pour cela. Juste vous encourager à continuer à prier. On a notre guide de prière pour la semaine, les 7 jours qu'on a mis, les 7 jours de prière au cœur de la crise. Donc, ce qui vous encourage. Peu importe le jour où vous commencez, vous pouvez juste prendre une journée et descendre. Vous voyez ici dans la liste, vous descendez la journée que vous voulez. Donc, c'est à votre guise de commencer la journée que vous voulez. Ça marche pour votre horaire à vous. Ensuite de ça aussi, manquez pas, durant la semaine, je fais des petites interventions, des partages, prières ensemble. Et le prochain est mercredi soir à 19h. Il y en a un le mercredi soir à 19h. Il y en a un le vendredi après-midi à 15h. Donc, vous pouvez vous connecter. Juste vous mentionner, comme ça a été mis sur les messages, les messages sont là pour un temps précis. Ils vont être enlevés après un certain temps. C'est juste pour qu'on garde le contexte aussi de la situation. Si vous avez des requêtes de prière, des choses que vous mentionnez durant les vidéos, à un moment donné, ils vont disparaître de là. Mais soyez là le mercredi 19h pour notre prochaine rencontre. Et à partir, ce que vous savez pas, ou je l'avais mentionné dans les vidéos de semaine, si vous étiez pas là, à partir de demain, il va y avoir des petites capsules qui vont être mise en ligne. Petite capsule d'un ami pasteur qui était avec nous pendant 6 ans, pasteur Nicolas Duroy, qui a fait quelques capsules qu'il nous a partagées pour qu'on puisse les mettre en ligne sur notre page. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de ça à partir de demain sur les émotions, la gestion de tout cela à travers la crise et comment on peut le Seigneur faire confiance et comment on peut gérer cela. Donc, manquez pas ça à partir de demain. Ça va être directement sur le fil de notre page Facebook. Aussi, je veux juste remercier toutes les personnes qui ont participé à ma folie. Vous avez demandé la semaine dernière de dire « Hey, envoyez-moi une photo pour pas que je sois seul dans la salle le dimanche. » Alors, je vous ai invité à faire ça. Vous avez été plusieurs à répondre. Si je me suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 personnes m'ont envoyé des photos pour être ça. Donc, je suis avec 21 personnes en ce moment. Regardez bien, j'ai mis la photo. Vous voyez, j'ai les personnes qui sont avec moi. Je vous ai mis devant moi. Vous êtes là, vous voyez, là, vous êtes ici. Mais en réalité, vous êtes devant moi. Donc, j'ai l'impression d'avoir des personnes. Vous avez toutes des beaux sourires. Vous avez tous des beaux sourires. C'est merveilleux. Comme ça, si je fais des blagues, je vois votre rire. Il y en a qui m'ont fait des sourires de rire, me dire, regarde, quand tu fais une blague, je ris. Alors, je suis vraiment content que vous ayez participé à ça. Merci beaucoup d'embarquer dans ma folie. Si vous ne l'avez pas fait, puis vous dites, hey, j'aimerais ça moi aussi, on va remplir, on va tapisser la salle, puis s'il y a trop de monde, on tapissera un mur, ça va être encore plus extraordinaire. Ce qui va être le plus fou, c'est quand on va revenir à la maison, à l'église, est-ce que toutes ces mêmes personnes seront là? Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire de se revoir ensemble. Donc, je veux juste aussi prendre un moment pour remercier tous ceux et celles qui rendent la diffusion et le travail qui est fait en ce moment, qui est faisable, qui fait que vous avez cette diffusion-là en direct et ils sont extraordinaires. Ils font un travail merveilleux. Je pense à Bobby Arsenault, Samuel Mendoza qui font au niveau technique, musical, qui préparent tout le matériel. Je pense à Michel Como et Christian Tavernier qui ont monté tout le travail pour la louange que vous avez eue tantôt. Je pense à Natalia Mendoza aussi, Michel qui travaille sur les plateformes que vous êtes dessus, Facebook, YouTube, qui sont là avec vous autres, qui font un travail extraordinaire pour rendre ça possible. Natalia, qui est là aussi pour tout vous aider au niveau des dons en ligne, qui va répondre à vos questions. On a toutes ces personnes. Et ultimement, la personne ultime de tout ça, c'est Jérémy. Jérémy, sans qui rien de tout ça ne pourrait fonctionner, parce que c'est celui qui fait que vous me voyez et que vous m'entendez dans votre ordinateur le dimanche. Donc, un bon... Je sais que ça va sonner comme un petit golf clap, là, comme... Mais c'est extraordinaire. Faites un beau wow dans votre salon pour ces personnes-là et remerciez-les pour le travail qu'ils font. C'est vraiment merveilleux. Et sans eux autres, je parlerais d'une salle littéralement vide, sans même que vous puissiez me voir. Ceci étant dit, c'est avec privilège qu'on peut continuer notre série de messages qu'on a commencé depuis quelques semaines qui s'appelle « Les tueurs silencieux ». Et c'est fou à quel point des fois Dieu peut être... Quand on fait juste écouter à quel point on peut être directement dessus avec le Seigneur, c'est hallucinant. Et je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà eu ce genre de situation-là où vous vouliez vraiment, vraiment, vraiment que Dieu fasse quelque chose. Où vous avez prié, là, tu sais, vous suppliez jusqu'à pour que Dieu intervienne. Tu sais, vous avez jeûné, prié, vous avez tout fait pour que Dieu intervienne puis essayé que Dieu fasse quelque chose. et vous avez ce genre de situation-là et Dieu a peut-être pas agi, Dieu a peut-être agi. C'est jamais pareil. Mais il y a un personnage, avant de commencer, que je veux vraiment qu'on établisse dessus pour juste se donner un fondement. Ça se trouve dans 2 Rois, au 20e chapitre, le verset 1. Ça dit ceci. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le voir et lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires car tu ne survivras pas à ta maladie. » Wow! Imaginez, le prophète Ésaïe s'en vient le voir et lui dit, « Voici ce que Dieu te dit. Là. C'est le moment de faire ton testament, de régler tes affaires. Règle toutes tes affaires avec tes amis, avec ta famille, avec ton monde parce que tu t'en sortiras pas de cette maladie-là. Tu vas y rester. » En fait, c'est pas vraiment des super bonnes nouvelles. C'est pas le fun de commencer comme ça. C'est pas le genre de message que tu dis, yes, ça m'encourage, pasteur, aujourd'hui. Je suis dans mon salon, je saute de joie. Pas du tout. Vous êtes probablement dans votre divan en vous disant, ça n'a pas de bon sens. Peut-être que vous voyez votre situation puis vous dites, ben, voyons donc. Mais regardez bien ce qui se passe. Versets 2 et 3. Ça dit, alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. Ah, Seigneur, souviens-toi. Je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. Et regardez, j'ai toujours agi de manière à te plaire, puis il ne put retenir ses larmes. Il s'est écroulé, il suppliait, tu sais, cet état d'esprit-là où on craque. À un moment donné, c'est comme j'en suis plus capable, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau et de ce temps-là, vous devriez pas l'être trop physiquement parce que tout le monde ne devrait pas avoir manqué de papier, de rouleau de toilette, donc vous êtes au bout du rouleau. C'est une blague. Je la trouvais drôle, moi. Je me fais des blagues et je les ris dans la salle. Il y a un écho extraordinaire. Mais ceci étant dit, c'est qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on le voit qu'il a toujours agi de manière... Il dit, j'ai toujours agi de manière à te plaire. Puis à ce moment-là, il se met à pleurer. Et il fait ce que beaucoup de nous autres on fait. On supplie, on plaide notre cause pour que Dieu agisse. On veut que Dieu intervienne. Et là arrive le verset 4 et suivant qui dit ceci. Cependant, Ésaïe n'était pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore reparti complètement. Il n'avait pas quitté. Tu sais, c'est comme il était encore dans la hall d'entrée chez vous. Et que le Seigneur lui ordonna de retourner auprès d'Ézéchias. Je veux que tu retournes dans la cuisine, va le voir. Le chef du peuple de Dieu pour lui dire, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. D'après-demain, tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais même prolonger ta vie de 15 ans. Wow! Ça, c'est fou comme histoire. C'est hallucinant. Le gars, il va mourir. Il supplie Dieu, il craque, il pleure. Dieu le guérit et lui ajoute non seulement la guérison, il dit, je vais te donner un autre 15 ans encore à ta vie. Quand il pense, ça c'est le genre de réponse qu'on fait, c'est ça que je m'attends. C'est le genre d'affaire-là que je m'attends. C'est un peu comme, je vous raconte une histoire, à un moment donné, je m'en vais dans un restaurant, commande à l'auto. En fait, c'était pas dans la période qu'on est là, ça fait plusieurs mois de ça. Je m'en vais dans un restaurant, commande à l'auto, et c'est un vendredi soir, j'étais fatigué la semaine, et j'arrête là pour prendre la commande pour la famille. Et prends la commande, on arrive, et je rentre toutes les choses dans le sac, je regarde vite, on part, et tout semble correct, j'arrive à la maison, on se dépêche à manger, ça va être froid, et on ouvre les boîtes, et il y avait des boîtes, tout le monde va faire le lien, il y avait des boîtes de 6 croquettes, mais il y avait 4 croquettes dans chaque boîte. Et là, je me suis dit, mais voyons donc, 4 croquettes dans chaque boîte, on était plusieurs à avoir des croquettes. Et là, je me suis dit, non, on va donner à tout le monde. Puis, et là, j'étais comme un peu choqué. Je me suis dit, ben voyons donc. Et que là, je pars, je décide de retourner. Il y avait une tempête de neige ce soir-là. Ma femme, elle me dit, ben voyons donc. Je dis, écoute, je retourne. Et je retourne au magasin là-bas. Je lui dis, écoutez, je prends une photo, j'emmène la facture. Je prends une photo avec mon téléphone, je vais lui montrer. Et j'arrive là-bas au comptoir, je parle avec la gérante. Puis elle me dit, oh my God, c'est pas drôle, nanana. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'aimerais ça pour avoir les croquettes qui me manquent. Et là, elle me dit, je vais vous donner un autre trio complet. Je dis, c'est super gentil. Puis là, elle me dit, pour tout le dérangement, je vais vous donner 6 coupons de 6 trios supplémentaires, gratuits. En fait, c'est exactement la même affaire. Elle a vu mes larmes. Elle a entendu ma prière. Et elle a pas dit, je vais te guérir. Je vais guérir ton trio. C'est probablement plus ça qu'elle s'est dit. Puis elle dit, tout de suite, je vais te donner un nouveau trio. Mais non seulement je vais prolonger ta vie de 15 ans, je vais te donner 6 autres trios en avance. En fait, l'attente versus ce qu'on reçoit. Vous savez, je suis sûr que vous avez peut-être fait ce genre d'affaire-là un jour dans un restaurant, un magasin, vous avez retourné quelque chose, puis ça a peut-être pas tourné comme ça. Moi, j'ai été, waouh, j'ai une bénédiction extraordinaire. Mais dans la Bible, il y a plusieurs de ce genre d'histoires-là, pas de commande à l'auto, là, mais de ce genre de situation-là où on voit que Dieu intervient, que Dieu vient agir. Et je sais pas pour vous autres, mais quand je lis cette histoire-là, puis plusieurs autres histoires, tout à coup, je me mets à avoir des attentes envers Dieu. Je me mets à bâtir cette attente-là, et je voudrais que Dieu fasse les mêmes affaires envers moi. Guéris, t'as vu mes larmes, t'as vu ma prière, je veux que tu me guérisses, rajoute-moi 15 ans à ma vie. Dans mon cas, peut-être j'en prendrais 30, 40, 60 plus, là, ça m'irait. Mais je sais pas pour vous, mais quand on pense ça, on se dit, j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. Et là, on pense aux attentes qui sont générées. On veut que Dieu pourvoie. Et ça m'amène aujourd'hui au titre de mon message aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est ceci. Quand Dieu ne se présente pas. Quand Dieu ne se présente pas. C'est notre quatrième tueur silencieux. Quatrième tueur silencieux qui s'appelle les attentes. Ça peut tuer beaucoup de choses. Puis pas juste par rapport à notre relation avec Dieu, mais ça peut tuer plusieurs affaires dans nos relations avec les autres. Le couple. Au travail, parents-enfants, amis, nos relations, les attentes qu'on peut avoir, c'est qui peut générer beaucoup de conflits. Et aujourd'hui, je veux juste qu'on définisse ensemble, mais c'est quoi une attente? Tu sais, parce qu'on a tous une idée, mais je me suis fait ma propre définition d'attente selon tout ce que j'ai lu, et je voulais l'amener dans une autre phrase, une autre façon de le dire. Et voici ma définition pour des attentes. Les attentes, c'est notre conviction que quelque chose doit arriver d'une certaine manière. Ça, c'est nos attentes. Notre conviction, on est sûr, on croit dur comme fer que quelque chose doit arriver, je dis bien doit arriver, et d'une certaine manière. Ça se retrouve, et je veux juste bien l'expliquer, ça se retrouve entre nos désirs et nos exigences. Dans le sens que vous trouvez les désirs, j'aimerais ça, les attentes et les exigences. Les attentes, c'est un peu entre les deux. C'est un peu un entre-deux. C'est que parfois, ils basculent vers du côté des exigences. Des fois, ils basculent du côté du désir seulement. Mais il y a toujours cette... Et c'est un peu dans le milieu de la situation. Et pensez à toutes les attentes que vous avez dans votre vie. Réfléchissez un instant, là. Juste, pendant que vous êtes dans votre lit, sofa, divan, ordinateur, devant, je sais pas où vous êtes. Et pensez pendant un instant... Quand vous êtes cette attente-là, vous vous dites aujourd'hui, là, où est-ce que vous êtes, là, que ce soit la chaise de cuisine, peu importe. Vous avez une attente. Vous avez l'attente que la chaise vous tienne, que le lit vous soutienne, que le sofa vous soutienne. Vous avez cette attente. Vous vous attendez quand vous allez vous asseoir dessus, que ça vous soutienne. Vous avez une attente. Et il y en a plein de choses comme ça qu'on a dans la vie. On a plein d'attentes. On s'attend à ce que la connexion fonctionne, que le vidéo fonctionne. On a des attentes. Que vous vous attendez que je sois prêt pour le message. C'est une attente que vous avez. On a l'attente que nos autorités vont prendre les bonnes décisions. C'est une attente qu'on a. Que le système de santé soit accessible, disponible et surtout compétent pour pouvoir être là quand j'en aurai besoin. On a des attentes. On en a plein d'attentes. Mais on ne les communique pratiquement jamais, nos attentes. C'est très rare qu'on communique nos attentes. Parce que on les a dans notre tête, dans notre pensée, dans notre cœur, c'est quelque chose qu'on s'attend que, puis c'est comme un non-dit. C'est comme, ben, c'est supposé d'être. Moi, mais c'est supposé d'être dans ta conception des choses. Et voici ce que ça fait, qu'il soit pas communiqué. Je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça fait quand c'est pas communiqué. Des attentes non communiquées mènent vers la déception. Des attentes non communiquées mènent vers la déception. Ça apporte des tensions dans n'importe quelle relation. Et si je prends juste l'illustration, le plus facile, c'est l'illustration de couple ou de travail. La famille, les relations avec les gens avec qui on est dans... Tu sais, mais vous êtes aux études, faites des travaux de groupe. Vous avez des attentes envers les autres. Mais si c'est pas communiqué, vous créez une attente, vous l'avez pas, ce qui s'est pas rencontré, puis là, il y a une tension qui s'installe. Comment ça se fait qu'il l'a pas fait? Je m'attendais à ce qu'il le fasse. Et même dans nos passe-temps, dans le sport, activité, tu sais, je l'ai dit souvent, je joue au hockey, puis il y a comme une espèce d'attente non communiquée. Puis si c'est pas communiqué, de dire, hey, je m'attends que le joueur qui est avec moi m'aide. Je m'attends que tel joueur, surtout, exemple, quand il y a des attaquants, ben, qu'ils reviennent en repli défensif. Moi, je me retrouve comme gardien de but. Ben, je m'attends que ces joueurs-là reviennent, fassent un repli. Donc, il y a ces attentes-là. Évidemment, c'est pas à chaque jeu qu'on a le temps de dire, hey, oublie pas. Mais quand c'est pas communiqué, dans toutes ces sphères-là, ça crée des tensions. Et les tensions, ça devient difficile de deviner ce que quelqu'un d'autres s'attend de nous ou ce que nous, on a comme attente envers quelqu'un d'autre, si ce n'est jamais mentionné. Donc, il en va de même avec notre relation avec Dieu. Et là, vous allez dire, ouais, mais j'ai dit à Dieu, puis j'ai dit à Dieu. On arrive avec nos attentes. Et parfois même, on y a pas dit, on a des attentes qu'on a. Et il arrive quoi quand j'ai des attentes et que Dieu ne les rencontre pas? Quand Dieu ne se présente pas à mes attentes. Nous, on s'attend. Et parfois, on exige. En Matthieu, au 26e chapitre, le verset 36, ça dit ceci. « Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Jésus est avec les boys. Il emmène la gang. On s'en va prier, gang, venez-vous-en. On s'en va au jardin, c'est Gethsémané en réalité, et ces jardins-là. Et Jésus sait à ce moment-là qu'il y en a pour pas long, qu'il en reste pas beaucoup de temps. Et Jésus a ce plan-là, où son plan, c'est d'aller prier. Il dit aux gens, « Hey, venez-vous-en. Pendant que je m'en vais là-bas pour prier, asseyez-vous ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. » Verset 39, regardez bien ce que ça dit. « Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes, « Mon Père, si c'est possible, » ça c'est rare qu'on met ça dans nos phrases, « éloigne de moi cette coupe de douleur. » Cette coupe-là, Jésus sait, il y a cette discussion-là, lui, entre le Père et le Fils, et il demande si c'est possible. « C'est-tu possible, Père, que j'aille pas à passer par le chemin que je dois prendre? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une autre option, qu'il y ait un autre chemin, qu'il y ait quelque chose d'autre que je peux faire? » Et il sait qu'il doit porter les péchés du monde, il sait qu'il doit aller à la croix, mais son désir... C'est de dire au Père, je voudrais passer par un autre chemin. Si c'est possible d'éloigner de moi cette coupe de douleur. Si c'est possible pour moi de passer par un autre chemin. Et en fait, Jésus n'est pas en train de dire à Dieu, je veux que tu arrêtes le plan de rédemption. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais c'est comme si humainement, dans son humanité, il se dit, j'aimerais ça pouvoir éviter la souffrance. J'aimerais ça pouvoir avoir à ne pas vivre cette douleur. Imaginez, Jésus a prié probablement la même chose que toi tu pries. C'est-tu possible que je vive pas cette douleur-là? C'est-tu possible qu'il y ait un autre chemin qu'on pourrait prendre? Si c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai souligné si c'est possible. Parce que Jésus va dire ça dans le sens que si tu le veux, je pourrais-tu faire un autre chemin? Et il va prier ça trois fois. Regardez bien au verset 44. Ça dit, Jésus les quitta de nouveau. Il est allé voir les disciples. Il revient. S'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Jésus revient à la charge trois fois. Trois fois, il va prier, il va demander la même chose à son Père. C'est-tu possible que cette coupe-là s'éloigne de moi? Est-ce qu'il y a un autre moyen? À trois reprises. C'est pas une prière. À trois reprises, là, on n'est plus dans la prière. Hey! Si ça donne, tu feras ça. Ou, oh Seigneur, je te prie pour mon beau-frère, ma belle-sœur, je te prie pour mes parents, je te prie pour mes enfants. D'une fois. C'est trois fois et dans un cours, c'est répétitif, c'est une pétition. C'est comme je voudrais ça. Et on peut tellement comprendre ce qu'il est en train de, ce qu'il demande. Puis vous l'avez peut-être, comme je disais tantôt, vous l'avez peut-être déjà prié. Peut-être que ça arrivera. C'est exactement ce que tu supplies depuis un bon bout. Ça fait longtemps que tu pries ça. Peut-être que c'est ça là, peut-être que ça a été ça dans ta vie, et peut-être que c'est ce qui va se passer. Mais Jésus nous démontre comment gérer nos attentes dans ce passage-là. Comment on peut gérer ça? La première chose qu'on peut voir que Jésus va faire, c'est qu'il va communiquer. La première chose qu'il va faire, c'est communiquer. On doit apprendre à communiquer nos attentes. Dans toutes nos différentes relations. Et là, je le mentionne, réfléchissez-en. Apprendre à communiquer. On est dans un monde qui n'a jamais autant de manières ou moyens de communiquer. On n'a jamais si peu communiqué entre êtres humains. En fait, on se dit des affaires, mais on se dit rien. C'est ce qu'il y a. La communication, c'est d'extérioriser quelque chose qui se passe en dedans. Et non pas simplement transmettre de l'information. Nous autres, on confond communication et relation. Communication, on va dire, je te communique, va-t'en à l'épicerie, va me chercher du lait, du pain, va chercher la... Ça, on a communiqué. Ça, c'est pas communiquer, c'est donner de l'information. La communication, ça en fait partie. Donner de l'information, c'est une partie. Mais c'est comme si on s'arrêtait là. Parce que communiquer, c'est d'être capable de faire comprendre ou d'expliquer à quelqu'un ce que je suis en train de vivre, ce que je ressens. Et ça, c'est très difficile parce que pour plein de personnes, on n'est même pas capable nous-mêmes d'identifier ce qu'on vit ou ce qu'on a besoin ou ce qu'on ressent. Mais pourtant, quand la Bible a dit, même quand vous savez pas ce que vous avez besoin, le Saint-Esprit sait quoi demander. Nous, quand on lit ça, on fait comme, non, je sais ce que j'ai de besoin. Pas vrai, là, on s'arrête et on se rend compte que c'est pas vrai. On a besoin de plus en plus d'apprendre à connaître ce qu'on a besoin. Pas ce qu'on désire, ce qu'on a besoin. Et nos attentes basculent vers le désir, du désir vers les exigences. Le besoin, c'est une autre chose. Et Dieu sait ce qu'on a besoin. Nous, on a des attentes, mais Dieu sait ce qu'on a besoin. Et il dit, je vais toujours te donner ce dont tu as besoin. Tout le temps. On doit apprendre à communiquer avec Dieu. Le Père et le Fils, dans l'histoire, sont en train de communiquer. Hey, pensez-y, là. On a deux personnes parfaites qui communiquent ensemble. Ils se communiquent. Imaginez à quel point nous, on a besoin de communiquer. Puis on a deux personnes parfaites qui communiquent ensemble, puis qu'ils le font, ils se communiquent, ils parlent, ils s'expriment. À quel point des êtres imparfaits ont-elles besoin de le faire? Philippiens au 4e chapitre, le verset 6, dans la version New Second, nouvelle édition Genève. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Nous, on a remplacé « Faites connaître vos attentes ou vos désirs à Dieu. » Dieu veut rencontrer nos besoins. En toute chose, faites connaître. Donc, communique tes besoins. J'ai besoin d'aide, Seigneur. J'ai besoin dans ma souffrance, j'ai besoin dans mon désespoir, j'ai besoin dans mon découragement, j'ai besoin dans ma fatigue, j'ai besoin de toi. Donc, avec Dieu, dans ton couple, c'est important aussi. C'est important, mais c'est aussi très important de savoir que c'est pas parce que tu le fais savoir que toutes tes attentes seront rencontrées. C'est bien important de savoir. Je veux souligner ça. C'est pas parce que tu dis, je sais pas ce que je dis à mon épouse, mes attentes, que toutes mes attentes vont être rencontrées. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être que vous vous dites, mais si je les ai fait connaître, ils devraient tous se réaliser. C'est pas comme ça. La communication, c'est pas une lampe magique qui se dit, si je passe à travers la communication puis je fais connaître mes attentes, tout va être rencontré. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est de faire connaître ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis et surtout ce que tu vis. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on peut dire plein d'affaires sans nécessairement jamais rien dire. C'est exactement ce que je viens de faire avec ma phrase. On peut avoir plein de mots, mais rien dire. Donc, ça se traduit dans nos relations avec la famille, au travail. Les attentes peuvent devenir ce tueur silencieux-là dans notre vie. Ça cause des tensions énormes qui apportent plus de dégâts plus on garde le silence. Deuxième chose qu'on peut voir que Jésus nous apprend, c'est d'adopter un mode de vie que j'appelle le « même si ». Le même si, c'est un principe qu'on voit dans l'Ancien Testament, en tout cas que moi j'ai trouvé dans Daniel au 3e chapitre que j'aime beaucoup. Puis avant qu'on aille dans le texte, je vais vous résumer un petit peu l'histoire. C'est une histoire de trois amis, les trois amis de Daniel, que la Bible appelle Shadrach, Meshach et Winnebago. Abednego, c'est une blague. Shadrach, Meshach et Winnebago. C'est Shadrach, Meshach et Abednego. C'est trois amis à Daniel. Qui, à un moment donné, le roi qui est là, fait ériger une statue, demande à tout le monde qui est présent, quand il va avoir de la musique, tout le monde va se prosterner devant la statue. J'exige que tout le monde fasse ça. Et alors qu'il fait sonner la musique, les trois buddies restent debout, font rien, ne bougent pas, ne se prosternent pas devant la statue. Et là, le roi, il fait comme, je pense que vous avez mal compris, les gars. Ce que je veux dire, je vous donne une autre chance. C'est quand ça va jouer de la musique, je vous le dis tout de suite. Quand ça va jouer de la musique, vous allez vous prosterner devant la statue. Si vous le faites pas, faites chauffer la fournaise, vous allez le mettre dedans. Et là, eux autres, ils vont y répondre quelque chose de super intéressant parce qu'ils vont dire, non, nous, on veut pas se prosterner, on va pas, on sert notre Dieu, puis notre Dieu va nous délivrer, puis on te fait confiance. Puis là, il y a cette beau passage-là que les gens utilisent au niveau de la foi pour se booster, dire, les trois copains qui font, là, on va tenir tête au roi, nous, on va suivre Dieu, on va faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Ils font confiance à Dieu, mais pour vrai, parce qu'ils décident d'ouvrir la fournaise puis de les mettre dedans. Mais regardez bien ce qu'ils vont dire dans Daniel 3e chapitre, verset 18, qui dit, « Mais même s'il ne le fait pas, dans le sens que même si Dieu ne nous délivre pas de ta main, sache bien, ô mon roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » En fait, même s'il ne le fait pas, adopter un mode de vie, même si, j'appelle ça comme ça, le même si, mais même si Dieu n'intervient pas, même si Dieu ne se présente pas, ça, c'est la partie où tout dans notre tête vire fou, là, tout comme part dans tous les sens. Parce qu'on dit, oui, mais Dieu est supposé d'intervenir, ça, c'est nos attentes. Dieu est supposé de me délivrer, Dieu est supposé de prendre soin de moi, Dieu est supposé de me guérir, Dieu est supposé de me protéger, Dieu est supposé de m'empêcher de tomber. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Eux aussi ont prié. Ils ont prié, puis leur vie était en jeu, et littéralement en jeu. Et ils ont dit, même s'il ne le fait pas, c'est d'être capable de dire, je vais garder mon espoir, même si je trouve que ça, j'ai aucune raison d'espérer. Je vais être un bon employé, même si. Je vais être un bon père, même si mes enfants m'écoutent pas ou veulent pas m'écouter. Je vais être un bon mari ou une bonne épouse, même si. C'est adopter ce mode de vie-là de même si. Simplement, c'est d'apprendre de faire confiance à Dieu avec le pas de réponse. Tu sais, quand Dieu, on supplie puis on demande, et qu'il se passe rien. Il arrive rien. Et là, on est comme, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? C'est pas d'avoir des attentes qui sont un problème. C'est comment on gère nos attentes. Et c'est le même problème avec nos émotions, notre attitude, notre colère, notre peur, ajoutez tout ce que vous voulez. C'est pas de les avoir qui est un problème. Parce que la Bible, tu sais, souvent, j'ai vu dans plusieurs contextes des gens qui, en quelque part, mettaient un peu de côté les émotions, ce qu'on ressentait par rapport à ce qu'on vivait. « Ben là, t'as pas besoin de te ressentir ça. Dieu est avec toi, fais tout le temps pas. » Je m'en fais pareil. En fait, le problème, ce n'est pas d'avoir des inquiétudes. Le problème, ce n'est pas d'avoir de la peur. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on laisse dominer dans notre vie. C'est totalement différent. Parce que vous ne pouvez pas gérer une certaine réaction instantanée. C'est comme quelqu'un vous fait sursauter. « Hey, mon gars, je peux gérer comment après, mais sur le coup, ça m'arrive. » C'est possible que ça nous arrive d'être choqués, d'être en colère. Ça peut nous arriver d'avoir peur dans nos émotions qui soient toutes bouleversées. Mais la question, c'est comment on gère ces choses-là, comment on les aborde et comment on les vit par la suite. Souvent, pour plusieurs personnes qui sont... et je sais que les personnes sont comme un peu dans des pôles. Tu sais, t'as souvent les gens qui sont hyper émotionnels, puis les gens qui sont très cérébrales et qui sont très réfléchis. En fait, je veux vous compreniez une chose, c'est humainement, là, ça n'existe pas quelqu'un qui est juste émotionnel ou juste cérébral. C'est pas comme ça que l'être humain fonctionne. Il a l'ensemble de toutes ces choses-là. C'est juste comment il fait face ou il réagit face à ces parties-là de lui-même. Des gens qui ont de la difficulté, ou qui sont plus cérébrales ou réfléchis, dans certains cas, peuvent être très bouleversés quand une personne très émotionnelle rentre dans leur sphère. Et parce que il y a une espèce de clash qui s'installe, c'est-à-dire une personne qui a peut-être beaucoup de difficulté à gérer ses émotions, l'autre qui a de la misère à les exprimer ou les faire savoir. Fait que ce qui fait qu'il y a comme une espèce de choc qui se produit. Le problème qu'il y a, c'est qu'on catégorise les êtres humains comme étant des émotionnels puis des non émotionnels ou des cérébraux ou des gens qui font rien que réfléchir ou sont très stoïques. C'est pas vrai. En fait, ça existe pas quelqu'un qui a pas de colère, qui a pas de peur, qui a pas d'inquiétude. Ça se peut pas. L'être humain, il l'a. Problématique, c'est comment on gère. Et ça peut être dans les deux situations. Quelqu'un qui est très émotif peut avoir de la misère à gérer ses émotions et quelqu'un qui a très cérébral peut avoir beaucoup de misère à gérer ses émotions, la même affaire. beaucoup de, hey, mon Dieu, je sais pas comment je vais réagir à ça. Et souvent, on essaie de contenir et de raisonner les choses. De l'autre côté, la personne très émotive va les sortir, les exprimer pour essayer de s'en libérer. Dans les deux cas, on essaie de les canaliser en quelque part, mais souvent, on sait juste mal s'y prendre pour les sortir ou les faire connaître nos émotions. Et quand il y a des trop-pleins, bien évidemment, ça explose. Et c'est souvent là que les dégâts sont faits. Mais quand on lit ce texte-là qu'on a regardé, comment Jésus a emporté ce contexte-là, de si c'est possible, quand on arrive à adopter ce mode de vie-là de même s'il ne le fait pas, regardez bien, quand on parle de gestion d'émotions de par rapport à nos attentes envers Dieu, regardez bien ce que Matthieu, au 19e chapitre, le verset 26, nous dit. Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Il faut comprendre qu'il faut croire que Dieu peut guérir, peut restaurer, peut relever, peut délivrer, Dieu peut tout faire. Mais c'est à lui que ça appartient de le faire. Et s'il ne le fait pas, comment je vais réagir? Tout est possible à Dieu. Ça dit pas que Dieu va tout faire. Ça dit juste que tout est possible à Dieu. Dans plusieurs passages, on le met dans certains passages, on utilise ça de ce sens-là en disant, tout est possible à celui qui croit. Donc, si je crois, je devrais être capable de tout faire. Mais ça, c'est mal comprendre les versets. En fait, tout est possible à celui qui croit. C'est possible parce que tout est possible à Dieu. Donc, si je crois en Dieu, tout est possible. Mais est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Dieu va intervenir? Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu se présente pas? Quand Dieu ne débarque pas dans la situation? Pour certains d'entre nous autres, on a de la difficulté à le gérer si on est très émotif. On devient soit découragé, soit en colère, soit on crie, Et de l'autre côté, ceux qui raisonnent, qui essaient de comprendre, raisonner. Puis, en fait, dans les deux sens, ça devient très frustrant. Pour les deux coins, la personne qui est très cérébrale et l'autre qui est très émotionnelle, ça devient une frustration. Et il faut gérer ça. Pour plusieurs personnes, je pense que peut-être vous avez besoin aussi d'apprendre à avancer dans cette direction-là, que tout est possible à Dieu, de faire confiance à Dieu, d'avancer dans cette direction-là. Mais, regardez bien. J'ai mis une phrase que je vais mettre à l'écran. Il dit, il faut avoir la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, pour... Et là, j'ai mis une barre vide. Et j'aimerais que tu puisses la remplir. Il faut avoir la confiance ou la foi en Dieu pour sortir financièrement de mon gouffre, restaurer mon couple, arranger mes relations familiales, mon travail, me trouver une job, la crise, situation de maison. Il faut avoir la foi en Dieu pour telle situation. Mais aussi lui faire confiance, même s'il ne le fait pas. La confiance, c'est de réaliser que qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, j'ai confiance qu'il fait la meilleure chose pour moi. Et je veux parler à ceux qui sont chrétiens, là. Tu sais, ceux qui se vantent de faire confiance en Dieu, mais à la minute où Dieu ne fait pas ce que vous pensez qu'il devrait faire, ou aurait dû, ou aurait pu faire, on remet en question toute notre foi ou toute notre confiance en Dieu. Comme si Dieu se préoccupait pas du tout de ce qu'on vit. Ah ben là, s'il me laisse vivre ça, ah ben s'il me laisse passer à travers de ça, je pensais jamais que Dieu me laisserait vivre cette tragédie-là. Il doit pas être intéressé, il doit pas se préoccuper. Tu peux pas faire confiance ou avoir la foi en Dieu juste quand tu le veux. Tu peux pas avoir confiance dans la relation avec quelqu'un simplement quand ça t'adonne ou quand ça fait ton affaire. Confiance, c'est une confiance. Et plus on avance dans une relation, plus on bâtit une relation avec quelqu'un, plus on lui fait confiance. Cette semaine, on parlait dans les petits partages qu'on a fait durant la semaine. J'ai parlé de confiance, de relation par rapport à la foi. Et à quel point que la relation avec peu importe la personne avec qui vous êtes, que ce soit conjoint, vos enfants, des amis, des personnes proches, votre thérapeute, votre pasteur, avec Dieu, la relation de confiance grandit au fur et à mesure que la relation elle-même grandit. Plus tu passes du temps avec une personne, plus tu vois jusqu'à où tu peux y faire confiance. On est très réticent, on est très méfiant, c'est-à-dire le contraire de la confiance, quand on connaît pas la personne, puis on sait pas jusqu'où on peut aller avec. Ça, c'est la méfiance. Dieu veut bâtir la confiance. Et le mot confiance, le mot foi, j'explique, c'est la même affaire. Dans le grec, ça veut dire la même chose, c'est un synonyme. Avoir la foi, avoir la confiance, c'est j'ai confiance en toi, j'ai la foi. Je sais que ce que tu fais est la bonne chose. Si j'ai mon épouse ou un ami proche ou une personne à qui j'ai extrêmement confiance me dit, fais pas ça, va pas dans cette direction-là. Je vais considérer énormément ce qu'il dit parce que j'ai confiance en ce qu'ils me disent. Mais si je n'ai pas confiance ou ma relation avec cette personne-là ou ces personnes n'est pas assez développée, J'aurai pas confiance en ce qu'elle va me dire, je vais être méfiant. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on développe cette confiance-là avec lui. Il veut qu'on grandisse. Et en la seule manière de développer la confiance, c'est de continuer la relation, de développer la relation. C'est comme ça que la confiance grandit. Donc, quand je vous disais tantôt, quelqu'un qui a fait longtemps, qui dit, oh, ben, moi, je suis chrétien, là, puis qui dit, oh, Dieu aurait dû faire ça, puis qu'on remet tout en question. Tu peux pas faire confiance ou avoir foi en Dieu juste quand toi tu le veux ou quand ça t'adonne. C'est pas de la foi, ça. C'est pas de la confiance. En fait, avoir confiance en quelqu'un quand c'est évident, t'as pas besoin d'avoir de confiance. T'as besoin d'avoir confiance quand c'est pas évident. Justement. Et l'espoir, j'aimais bien J.K. Chesterton qui disait, en fait, l'espoir est véritablement l'espoir jusqu'en qu'il n'y en a plus d'espoir. C'est là que l'espoir devient une véritable force. Parce que tant et aussi longtemps qu'il y a une possibilité, qu'on envisage, oh, mais j'ai pas besoin de te faire confiance, je sais que ça s'en vient. Je le vois. Mais quand je le vois pas, est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je bâtis la confiance? Est-ce que je permets de grandir dans ma relation avec Dieu pour développer ma confiance? Regardez ce que Jésus dit à la fin de ce texte-là qu'on voyait tantôt dans le jardin. Dans Matthieu 26. Le verset 39 et le verset 42, il dit, il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Je te fais confiance. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est pas évident comme attitude, je vous l'accorde, je suis tellement sous votre bord, je suis dans la même équipe. Encore plus quand je peux comprendre comment on peut vivre ça encore plus quand on est isolé, pas juste spirituellement ou émotionnellement, mais là, dans les cas où on est physiquement, de ce temps-ci, physiquement. Peut-être que vous êtes confiné seul. C'est encore plus difficile parce qu'on peut se sentir parfois dans une espèce de prison, dans un désert. T'as l'impression que Jésus, tu sais, comme nous, on est en train de vivre cette prison-là, là. Puis qu'on se dit, mais Jésus doit être sur la plage en dessous d'un palmier en train de boire des cocktails. Lui, tout va bien. Lui, sa vie, c'est extraordinaire. Puis moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il intervient pas? Qu'est-ce qu'il est en train de pas faire? S'il m'aime, s'il est bon, s'il est gentil, comment se fait que je vis ça? Notre questionnement nous amène à plein de réflexions. Dans Matthieu, au 11e chapitre, le verset 2 et 3, dans la parole vivante. Ça dit, « Lorsque du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. » Souvenez Jean-Baptiste. Il envoya vers lui, vers Jésus, deux de ses disciples pour lui demander, « Es-tu le Messie promis, ou bien devons-nous en attendre un autre? » Jésus se fait poser la question par Jean. Jean apprit que tout ce que faisait Christ, tout ce que faisait le Seigneur, tout ce qui se passait. Et Jean commençait à réfléchir, à se dire, mais comment ça se fait que je suis encore dans la prison, moi? Comment ça se fait que je suis encore en train de vivre ça? Dans ce Matthieu 11, versets 2 et 3, qu'on vient de lire, ça nous fait réfléchir sur que Jean, homme qui était engagé, extraordinaire, se met à douter. Il a entendu parler de tous les miracles qui se produisent partout. Et vous réalisez ce qu'il est en train de demander. Réalisez-vous ce qu'il est en train de dire. Il est en train de demander à Jésus lui-même, « Es-tu bien Jésus qu'on est supposé d'attendre? » Peut-être que tu as fait la même réaction dans ta vie. À un moment donné, tu dis, hey, « Je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est bel et bien Jésus que je devrais suivre? » Il a entendu parler de ça. Quand on se retrouve les plus déçus de Dieu, c'est souvent nos attentes qui ont été le problème. Dieu ne nous déçoit pas. Dieu ne cherche pas à nous décevoir. C'est nos attentes envers Dieu qui nous déçoivent. Nous, on se place des... Devons-nous en attendre un autre? Déception. Je veux juste vous mettre en garde de quelque chose. On ne doit jamais penser que l'Évangile ne fonctionne pas lorsque c'est... Nous ne devons jamais penser que l'Évangile ne fonctionne pas lorsque c'est nous qui ne voyons tout simplement pas la situation dans son ensemble. On pense que, ouais, mais ça marche pas, la Bible, ça marche pas, l'Évangile, ça marche pas, ce que... Parce que tout à coup, on voit pas la situation dans son ensemble. On la voit juste dans la perspective microscopique de notre vie. Deuxième chose que je veux vous mettre en garde, c'est de ne devons jamais juger l'amour de Dieu pour nous sur la base de nos circonstances actuelles. Jamais que nos circonstances qu'on est en train de vivre devraient être la lunette par laquelle on juge l'amour que Dieu a pour nous. Peut-être que vous avez vécu ce genre de saison-là dans votre vie. Ce genre de saison où, réfléchissez un instant, là. Quand il y a des émotions difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Vous savez, Jean a vécu la même affaire. Jean qu'on vient de juste lire dans Matthieu 11. Jean, première chose qui est arrivée, c'est que Jean a commencé à douter. Puis vous comprenez que, et ça je vous le rappelle, Jésus n'a pas changé. C'est toujours le même Jésus. Toujours le même personnage, le même gars, le même Dieu, le même. Jésus n'a pas changé. Autre chose qui se passe, c'est que ce sont les circonstances de Jean qui ont changé. Et là, j'arrive avec une autre phrase que je vais vous prendre en note. Quand nos circonstances ne s'alignent pas avec nos attentes envers Dieu, ça peut nous mener à douter. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jean. Est-ce qu'on peut avoir ces attentes-là? Et on peut avoir les mêmes attentes envers notre conjoint, conjointe, nos enfants, ou les enfants envers parents. Quand les attentes qu'on a s'alignent pas avec les circonstances, on peut se mettre à douter de notre conjoint. Ouais, je pensais qu'elle m'aimait, je pensais qu'il m'aimait, je pensais que mes enfants me respectaient plus, je pensais que mes parents... On peut commencer à avoir toutes ces réflexions-là puis remettre en doute plein de choses dans nos relations. Dans un instant, je vais vous laisser avec deux affirmations. Vous pouvez en prendre une des deux ou les deux. Et je voudrais juste que tu puisses t'arrêter un instant et permettre à Dieu d'agir dans ta vie, dans ce que tu es en train de traverser, dans ce qui se passe en ce moment-là. Puis de laisser le Saint-Esprit faire un travail en toi. En fait, les circonstances extérieures peuvent être troublantes. On l'a dit souvent, vous avez probablement lu des passages bibliques. Vous avez peut-être reçu même des notifications de Instagram, de Facebook, de Twitter, de peu importe, qui dit « Oh, fais confiance en Dieu, mets ta confiance en Dieu, Dieu va agir. » Et on se dit « Ouais, mais c'est pas, tu devrais comprendre mes circonstances que je suis en train de vivre. » Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est je voudrais juste que tu t'arrêtes et que tu permettes à Dieu d'agir dans ta vie. Que peu importe ce qu'on traverse, la tempête, la paix que Dieu donne, l'espoir et la joie que Dieu donne ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Il la place en nous. On n'est pas en paix parce que tout va bien autour de nous. On est en paix parce que je suis en paix avec Dieu. C'est un fait. C'est pas un sentiment. C'est une réalité. Et je dois me baser là-dessus pour me calmer. C'est comme ça, en fait. Entre vous puis moi. C'est comme ça que je me calme. C'est comme ça que je peux me rattraper ou me dire, attends une minute. C'est que je reviens à Jésus. Ça y est, une minute. Avec lui, là, il me dit, Marie, t'es en paix avec moi. Je vais te donner ma paix, je vais te donner ma joie, je vais te donner mon espoir. Il faut que je me base sur lui, parce que si je me base sur moi ou sur mes circonstances, on perd le nord. Voici les deux affirmations que je vais vous donner. La première, c'est celle-ci. Je peux avoir confiance en la fidélité de Dieu. Ça, je peux avoir confiance. Et deuxième chose, quelque chose de bien peut ressortir de tout ça. Je veux que vous appreniez à ne pas interpréter la fidélité de Dieu à travers les lunettes de nos circonstances. À la fin, Matthieu 11, chapitre 11, verset 6, dit ceci. « Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. » Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. Je crois que Dieu veut te parler au travers de ces affirmations-là, ce que j'ai mentionné depuis tantôt. Et que t'es pas à t'agiter comme un roseau ballotté au vent. Dans tout ce que nous traversons en ce moment. Je sais que c'est pas évident. Je le sais. Quand nos attentes sont là, on peut venir à croire que ce mensonge-là, du contraire, c'est-à-dire que Dieu est pas fidèle, puis je serai jamais heureux, puis il y a rien de bon qui m'en sortir, puis il y a aucun but dans tout ça, puis rien se passer. Ce que je veux faire en terminant, c'est de prier que Dieu te donne exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Une parole, un encouragement, une nouvelle, une lettre, un courriel, un message quelconque que tu es en attente de. Je veux prier pour que tu puisses recevoir ça. Mais moi, ce que je te dis aujourd'hui, puisque le Seigneur te parle, c'est fais-moi confiance, même si tu ne reçois pas. Même si.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.eglisem.com, www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.